I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans ce premier coin du feu.
Le premier coin du feu, la première discussion en toute intimité au coin du feu. On a trouvé que c'était un bon moment.
Parce qu'on fait ce podcast en une semaine.
Voilà, l'objectif de ce podcast,
ouais.
C'est de le faire en une semaine dans ma maison au Pays Basque. Et on a la chance d'être avec une cheminée.
Et on s'est dit, chaque soir, on va faire un coin d'œuf,
une petite
conversation. Et aujourd'hui, ce coin d'œuf, Bérangère.
Alors, je découvre le thème en même temps que vous.
Non, mais l'idée de ce podcast est venue d'un truc que tu m'as dit. C'est, je suis en pleine rupture, j'adore cet état, j'adore les ruptures.
J'ai vraiment dit ça comme
ça. Tu m'as vraiment dit ça.
Non, à force d'en vivre, je me suis rendu compte que ça donnait une énergie de renouveau et une force incroyable de renouer avec ses désirs profonds. Et il y a au-delà de, parce que ce n'est pas que ça, mais oui, il y a une redéfinition comme si tu reprogrammais un peu l'ordinateur et une espèce de grande page blanche sur laquelle tu peux dessiner ce que tu veux. Et ça, c'est vrai que j'aime bien.
C'est-à-dire que d'un coup, tu romps. Ça te le fait à chaque fois ou c'est juste là la première fois?
Non, ça me l'a déjà fait. En fait, c'est une étape qui vient après beaucoup d'étapes. Il y a le choc d'apprendre que l'autre te quitte ou de décider que toi, tu sens qu'il faut mettre fin à cette relation. Il y a quand même l'étape de négociation à deux pour dire que ça va être fini. Ensuite, il y a la nostalgie on revoit tous les bons moments. Alors, il y a comme un filtre à bons moments. C'est pas pourquoi. Là, il y a presque un peu de doute qui se dit, mais attends, quand même. Parce que là, tu quittes ta charentaise et tu vas vers l'inconnu. Donc, l'inconnu, c'est sombre, c'est noir, on sait pas trop ce que ça va être. Mais avec le temps, cet inconnu me fait moins peur. Du coup, il m'excite plus parce que, avec le recul, je me suis rendu compte que toutes mes ruptures m'avaient permis de faire des choses pour moi qui m'avaient permis d'avancer. Par exemple, ma plus grosse rupture en 2015, j'ai fait mon premier stage de développement personnel en Ardèche. Je l'aurais certainement pas fait si j'avais un amoureux et que je partais en vacances avec mon chéri.
Et je l'aurais certainement pas fait non plus, puisque je
t'en aurais pas parlé pendant 600 heures de train en tournée.
Par exemple.
Ça, c'est sûr. Après, autre rupture, 2 ans après, je pars seule en Australie. Tu vois.
Ouais.
Bon, après, c'est parce que. Bon, après, tu verras si tu coupes ça ou pas, mais en gros, c'est surtout que pour mon expérience personnelle, le couple m'éloigne de moi. C'est pas le cas de tout le monde, mais je sais que pour moi, c'est. Je suis d'abord dans le couple, ça doit devenir une priorité, et du coup, je m'oublie complètement sur des choses que je veux peut-être faire seule.
Ouais.
Donc, quand je romps, généralement, je renoue avec moi.
Donc là, par exemple, tu viens de rompre.
Ouais.
Tu m'as dit j'adore la rupture. Parce que c'est parce que tu connais le voyage déjà ou parce que tu te dis ah je vais pouvoir faire des trucs que je faisais pas. Genre là est-ce que tu as des projets? Genre je sais pas, est-ce que tu vas te mettre au cheval?
Non, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu comme projet où je me suis dit tiens, je vais faire ça ça ça. Attends, faudrait que je retrouve ma liste.
Donc tu as une liste que tu as faite avant pendant la relation?
Non, j'ai fait après, mais c'est plus... après, c'est compliqué. C'est parce que moi, dans la relation, je m'empêche de le faire. Parce que ça peut paraître débile. On se dit, mais pourquoi tu fais ça après? Moi, j'ai un vrai... Mais moi, j'ai une vraie... là aussi, dans cette rupture-là, j'ai besoin de redéfinir, encore une fois, ma définition de ce que c'est être en couple. Parce que moi, ça me coupe vraiment de plein de trucs.
Et bah, c'est quoi être en couple alors ?
Bah, je sais pas vraiment en fait, parce que. Alors, j'ai une théorie. La théorie des bateaux, quoi. On entend le vent.
On entend le vent.
Il y a un vent de. À décorner vent... les bœufs, hein, ah, comme dirait ma mère.
Et moi, je suis une pétocharde et on a eu la bonne idée de regarder Faites entrer l'accusé.
Faites entrer l'accusé, vent qui souffle à travers la porte.
Ouais. Voisin qui marche sur du parquet.
Vieille baraque, voilà. Bois qui craque.
Feu qui crépite. Ah ouais.
On est bien.
Ah, moi, là, je vais dormir plus pleine lune.
On est dans, souviens-toi, l'hiver dernier. Hein,
c'est ça.
Apparemment.
Donc,
Non, en fait, pour reprendre le fil... Alors ma théorie, oui c'est ça que je voulais dire. En fait j'ai une théorie et que parfois, elle n'a pas souvent été validée dans le couple. Ma théorie, c'est que dans un couple, il doit y avoir trois bateaux.
La théorie des la fameuse théorie des
ce
bateaux
que j'appelle la théorie des bateaux. Mon bateau, mon ouais. propre bateau, mon métier, mes inspirations, ce qui me tient éveillé en tant qu'individu. En tant qu'entière, enfin personne entière, ouais. en tant qu'individualité. L'autre doit avoir son propre bateau sur lequel il évolue. Et donc, on est deux bateaux qui se rencontrent complètement, autonomes, l'un et l'autre. C'est-à-dire que personne n'a besoin de l'autre pour vivre. Et on se rencontre dans un port de pêche, ou je ne sais pas.
Je sais, ouais.
Et ensuite, on va construire ensemble notre bateau. Ça, parce qu'un couple, c'est un projet, ce qu'on a pu apprendre dans notre stage de développement ouais. personnel. Un projet n'étant pas un enfant, par exemple, ouais. parce que c'est un autre être humain qui va arriver.
En revanche, un projet, c'est construire une maison,
construire une maison,
en voyage, faire des courses.
Voilà,
c'est des projets.
Voilà, ouvrir un restaurant.
Se dire que dimanche, il y a un truc à regarder à la télé.
Voilà, c'est avoir un ou des projets, c'est, voilà, mais qui sont sur notre bateau. Le déséquilibre se fait quand l'autre est sur le bateau de l'autre, quand notre bateau n'existe pas vraiment, que t'as deux bateaux qui circulent, mais peut-être qu'il y a pas de rapprochement en fait. Et donc souvent, moi, j'ai été, par exemple, j'ai souvent quitté mon bateau pour aller sur le bateau de l'autre, ou genre ça me convenait pas qu'on ait chacun notre bateau. Il y avait un truc un peu là-dedans, c'est-à-dire le mec a ses projets, ses trucs, et je me sens délaissée, me sens abandonnée, ouais. je me sens pas aimée, parce que le gars continue sa route, quoi. Et surtout, je pense surtout parce qu'on n'a pas de projet commun, pas de construction, et du coup, ça me convient pas. Là, dans la relation dans laquelle j'étais avec quelqu'un, alors ça me comblait vachement au début, parce que en fait, il avait pas vraiment, il avait un petit bateau, il avait un métier qui lui plaisait pas énormément. Et à un moment, il s'est dit, il s'est rendu compte par rapport à mon métier qui demande quand même, je pars souvent, mon métier me mobilise beaucoup de temps, la créativité, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Donc il s'est dit, je vais arrêter moi de travailler, d'être sur mon bateau, ou de faire évoluer mon bateau. Et du coup, je vais, tout ça est inconscient, hein, bien sûr, mais il est venu un peu sur mon bateau. Et ça m'a pas plu. Donc j'ai expliqué la théorie des bateaux. Et en fait, on a fini par couler parce que notre bateau, ça devenait un peu son bateau aussi. C'était donc voilà. Donc du coup, ça a été compliqué. Donc là, je renoue avec mon bateau qui est mon bateau.
Ouais. Et oui,
je délimite mon terrain de bateau. Ouais, t'es pareil.
Moi, je suis pareil. Moi, une fois que j'ai un truc de couple, j'oublie complètement que j'ai un bateau. Et d'un coup, mon projet devient notre bateau et le bateau de la meuf avec qui je suis. Et donc du coup, j'ai pas du tout c'est-à-dire que et puis d'un coup, quand en fait, je me rends compte que du coup, il y a pas vraiment d'histoire parce qu'en fait, je suis toute seule dans mon truc. Mm. Et quand du coup, il y a cette rupture, en fait, moi je repars avec un bateau déserté.
Oui, un bateau
pas terrible. Il faut réhabiter son bateau, c'est compliqué. Mm. C'est-à-dire c'est reprendre en charge sa vie, mais en même temps, c'est ça qui fait que peut-être après la rupture, c'est intéressant. C'est que t'as plein de choses à reconstruire, à redécorer, on va dire, dans ton bateau, quoi.
Oui, et c'est se dire que t'es pas tout seul, perdu, c'est que t'as un bateau que t'as un peu laissé à l'abandon, mais t'as un bateau, tout le monde a un bateau. Mmh. En fait, après, libre à soi de s'en occuper. Voilà, tu peux refaire une peinture, refaire une coque, mettre une voile. Mais c'est vrai que c'est important, quoi. Et moi, par exemple, je sais pas, je pense que j'avais des envies... Je sais pas, moi, j'ai envie de faire. Alors, je dis, j'ai envie de faire un stage pour apprendre à fabriquer son propre tambour.
D'accord. Bon, voilà. C'est très précis.
Ouais, mais ça, j'aimerais bien le faire.
Mais tu fais du tambour ?
Non, mais je voudrais apprendre. Mais du coup, ça impliquait que je partais avec mon bateau apprendre à faire du tambour avec une copine que ça intéresse, tu vois.
Tu as rencontré sur un site de gens qui aimaient le tambour.
Non, c'est ma pote, c'est Elisa, mais qui aime bien faire du tambour aussi. Non, mais après, voilà, c'était faire des trucs comme ça. Il y avait toujours un compromis. Et puis après, c'est pareil. La maison, c'était devenu notre bateau. Mais ça devenait aussi beaucoup son bateau, puisque comme il s'occupait pas de son propre bateau, du coup, il était très dans le nous.
C'était sur.
En fait, il était tout le temps dans le nous. Ouais. Et moi, j'avais l'impression de toujours être dans l'échec, puisque je n'arrivais pas à fournir cette énergie autant.
En fait, ce qui est drôle dans notre amitié, c'est qu'on est deux versions complètement différentes. Parce que, en fait, ce que tu racontes.
D'un même truc, tu veux dire ?
Bah, en fait, en vrai, je pense que mon attitude ressemble à l'attitude de ton ex, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, très bien.
Je pense que. J'oublie complètement et d'un coup, je surinvestis tout ce qu'il y a.
Mais moi, c'est d'autant plus difficile pour moi que j'ai été comme ça. En fait, je sais ce que c'est d'être comme toi et comme mon ex. C'est-à-dire que j'avais vachement d'empathie parce que je savais ce que c'était que de se sentir abandonné par l'autre parce qu'il est juste concentré sur ses trucs. Mais je savais pas comment le rassurer. Et surtout, le seul truc que j'ai fait pour me guérir de ça, ça a été de m'auto-gérer, en fait. Mmh. Ça a été de me renforcer moi, ça a été de faire des choses par moi-même, ça a été de faire des choses seule. Et en fait, c'est le seul conseil que je pouvais lui donner. Mais ça, tu peux pas dire à quelqu'un... Enfin, c'est un chemin, je le comprends. Mais j'ai été dans ce cas-là. Moi, j'ai été... Tu sais, je voulais te dire un truc tout à l'heure, c'est que j'ai déjà été avec... en fait, c'est comme un Google Agenda. T'es avec quelqu'un, ça se passe bien. Alors au début, tu sais, tu te vois succinctement, bon, ça c'est ok. Puis au bout d'un moment, moi je suis dans Google Agenda, c'est-à-dire que je programme, je suis à deux. C'est-à-dire que quand on me propose un truc pour moi, je me dis alors attends, agenda partagé. Donc je cale par rapport à lui, mais est-ce que lui il a un truc? Alors que, en fait, tu cales tes trucs et puis après on voit ce qui se passe. Et puis sinon on a envie de débloquer du temps, on le fait. Mais ça marche pas d'être sur l'agenda de l'autre.
Ouais.
Tu vois, de se dire, ah ouais, là, il... Non, c'est le chat qui est dans sa litière. Il pose une petite pêche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai déjà été comme ça.
Alors moi, j'ai autre question. T'es à ta 8e rupture importante.
Oui.
T'as eu des petites ruptures.
Oui, oui, mais c'est la d'histoires importantes, quand même.
D'histoires importantes.
Donc ça fait beaucoup, quand même.
Qu'est-ce que t'as appris ? Si tu prends ta première rupture ? Qu'est-ce que t'as appris après ta première rupture ? Ou alors peut-être on peut reprendre dans l'ordre inverse.
Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que de la rupture 1 à la rupture 6,
ouais.
Je n'ai jamais été seule.
Jamais ?
J'ai
pas un seul jour ?
Non, quasiment pas. J'ai enchaîné... des relations, je rencontrais quelqu'un et je quittais pour quelqu'un d'autre.
D'accord.
Pour une raison simple, c'est que je me choisissais pas et j'attendais le prince charmant qui vient me sauver.
C'est-à-dire que t'étais pas bien dans la relation.
Il y a un moment que j'appelle le déclic. C'est-à-dire, il y a un moment où la relation ne convient pas. Tu le sais, tu le dis. Moi, souvent, je l'ai dit, j'avais pas bien les mots, le vocabulaire pour expliquer vraiment concrètement ce qui me convenait pas. Mais ce qui me convenait pas, c'est la relation, c'est ce gars-là, quoi. Et tu vois, je veux pas le changer. Mais je l'exprimais, et un jour, un déclic, c'était la désillusion. C'est-à-dire, ok, c'est mort. Mais inconscient, hein, tout ça.
Ouais.
Et pendant, je dirais presque un an, parfois, je suis restée. En attendant un miracle, je pense. Un truc où tu te dis...
Mais et à chaque fois que tu rencontrais une nouvelle personne, tu faisais voilà, ça c'est ce que j'attendais pour me casser.
En fait, c'est-à-dire ça fait un an que t'es en demi-teinte, que t'y crois plus, que tu vois
dis
plus...
je t'aime en
ouais,
demi-molle.
Ouais, t'es dans une habitude, mais t'es plus. Alors c'est pas mal parce que t'es un peu détaché, t'es moins sur le bateau de l'autre, t'as un côté où c'est un peu plus libre.
Ouais, en fait, tu prépares la suite quoi.
Mais non, je prépare rien, mais par contre, inconsciemment, mon énergie est ouverte à la rencontre. Mmh. Et souvent, je me suis demandé comment c'est possible de partir avec quelqu'un d'autre aussi fort, aussi facilement, de me remettre dans une histoire. Tu vois, parce que là, aujourd'hui, je peux pas. Enfin, il y a un truc où faut que je digère, ouais, faut que je prenne du temps parce que faut que je me reconnecte à moi. Là, je me pluguais sur quelqu'un d'autre.
Ouais.
Donc, à un moment donné, t'as pas le temps, en fait. Donc, tu recommences des histoires qui se ressemblent, plus ou moins, tu vois. Donc, pendant toutes ces étapes, jusqu'à mes 32 ans...
Si je te dis de 1 à 1, 2, 3, qu'est-ce que t'as appris ? En fait, finalement, pas grand-chose. C'est la même histoire que t'as répétée, en fait. En tout cas,
ouais,
le même schéma.
Ouais, ouais.
C'est pas les mêmes mecs, évidemment. Non, t'as non, pas non. eu les mêmes...
Non, non. Et c'est surtout que ce que j'ai appris, c'est que je n'apprenais rien de moi. Je m'adaptais à la nouvelle personne. Alors, okay, c'était nouveau, c'était différent, c'était... ça m'apportait à ce moment-là quelque chose, mais...
Et ça veut dire que la rupture, du coup, 6 ou 7
C'est
la rupture de rupture.
La rupture importante, c'est la 6.
La rupture importante, c'est la 6.
Ouais.
C'est celle que j'ai...
C'est celle que, à laquelle j'ai assisté. Première loge, on peut
dire. Là, j'étais
là, bien
là.
Ouais, ouais, on peut le dire. Alors, comment on peut exprimer ça? Bah, c'est-à-dire, t'es là dans les 4 mois où la personne ne me dit pas que c'est fini. t'es là dans les torrents de morve. Tu m'aides à déménager.
Ça, c'était incroyable.
Ouais, donc on habitait ensemble, donc il y avait séparation de biens. Et moi j'étais donc une larve, hein, quelque chose de...
Voilà, t'étais vraiment tes petits poussins.
Voilà, et tu me disais, tu prenais des objets, tu me disais ça à toi, pas à toi.
Ah ouais, elle chialait, elle disait je veux pas faire ça. Et donc il y avait Bérangère sur une chaise, et moi, mais on en était au DVD, c'est-à-dire que tout tellement vous s'était mélangé, tellement c'était bien parti cette histoire. Vraiment ça, Bérangère, tu prends, tu gardes, tu jettes. Je sais pas, tu prends, tu gardes, tu jettes.
Une sorte de Marie Kondo très autoritaire.
Mais j'étais obligée, parce qu'en plus,
on avait pas
deux
beaucoup
jours de temps pour faire ça.
C'était horrible. Oh là là, monstrueux.
C'était dur, hein. Pour moi, c'était dur aussi. Hein.
Ouais, et on peut raconter quand même que.
Le soir, le protagoniste est revenu.
C'est-à-dire que on allait.
Moi, j'ai fait. Sérieusement ?
On a un teint de poussière, tu sais, de déménagement.
Ouais. Tout. On a les mains rêches. On avait même crié. Oh, non, mais on avait trié tes chaussettes.
On a les mains rêches de carton, tu vois.
Ah ouais.
On avait tout trié. On colle le dernier
zéro larme. C'était plus possible.
Moi, j'étais au bout. Et la personne arrive.
La personne rentre avec une bouteille de champagne et fait.
On sait pas ce qu'on fait.
Et moi, j'ai fait. Je vais y aller.
Et là, t'es partie et je me suis dit, putain, mais c'est pas du tout ce qui... Oh. Et je sais pas, il était revenu, c'était très bizarre. Mais revenu pour pas revenir, hein, finalement, mais... Oh. Extrêmement étrange.
Et donc, cette rupture-là...
Ouais.
La rupture charnière, je dirais.
Ouais.
Ça t'en tire quoi, aujourd'hui? Tu veux préciser un peu l'histoire ou
l'histoire,
pas trop?
C'est une rencontre... c'est une histoire qui a duré 2 ans et demi, qui est partie sur les chapeaux de roue, très très fort. J'avais rencontré, je pense, le partenaire à la hauteur de toute ma comédie romantique dans ma tête.
Ouais.
Le casting était bon pour créer toute une comédie romantique, mais c'est presque fictionnel, mais on aimait tellement ça tous les deux que...
Fabriquer quelque chose ensemble, ouais. Fabriquer le côté parfait.
Ouais, on était
parfait qui vous ressemblait.
Voilà, on était deux images, on était donc la première année, j'ai souvenir d'un truc très léger, très je sais pas, c'était comme un nuage.
Une folie, quoi.
Et c'est l'année de mes 30 ans, mon anniversaire, anniversaire surprise de malade, cadeau à la clé par mes amis et lui, un voyage à New York, demande en mariage sur une barque à Central Park. Donc moi, en fait, il me demande en mariage, donc je suis vraiment flattée parce que moi, dans ma famille, tout le monde se marie et que j'étais un peu une des dernières à pas être mariée.
Mais toi, le mariage, c'est un truc.
Avec le recul, je sais que aucune émotion de l'intérieur de me dire génial, je vais m'engager pour la vie avec quelqu'un. Enfin, tu vois, on n'avait pas de projet, par exemple, de couple. En fait, finalement, ce mariage-là, c'était une espèce de fable géniale de comme une comédie romantique. Tu vas à quelle robe? Et puis en fait, quand t'es dans le concret, ben en fait, ça te rattrape.
Puis c'est chiant le mariage.
Bah c'est sûr que c'est chiant à organiser. Donc si t'es pas main dans la main et que t'as vraiment envie et que ça a un vrai sens pour toi, ça fait comme nous. Bah à un moment, on annule parce que le mec se délite. Il y a des trucs qui vont pas. Donc voilà, peu importe les détails. Mais et donc un an après, on est dans un truc à organiser ce mariage. Ça merde. C'est pas fluide, quoi. Et puis, Ça a été très long, en fait, pour rompre. En fait, ça a duré peut-être 8 mois de No Man's Land, où je pense lui a eu le déclic que c'était terminé. Tu vois, ce déclic dont je parlais tout à l'heure. Mais qu'il a, il agit pas.
Oui, et surtout qu'en plus, vous êtes engagés.
Bah, on est engagés, on est ensemble. Ouais, ouais, ouais.
C'est-à-dire que vous allez vous marier, en fait.
Et en fait, avec le recul, ce qui était très dur de j'avais pas les clés et j'avais pas le recul nécessaire pour arrêter cette projection. C'est-à-dire que, en gros, moi, je me suis fait un film dans ma tête. J'ai organisé un tournage. Il y a des acteurs, des costumes. Il va y avoir beaucoup de monde. Et il y a quelqu'un qui me dit, en fait, non, t'as pas les sous pour le tournage. Et je dis, mais si, on va le faire. On va le faire. Et en fait, non, en fait, tu peux pas. T'as l'acteur principal qui peut pas venir. Donc, soit tu le remplaces au pied levé, mais bon, voilà, par qui. Mais c'était ça. C'était toute cette projection. Donc, quand ça s'est terminé, je me suis retrouvée sans bras, sans jambes, avec j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, et pourtant j'avais mon métier et tout, mais je me sentais complètement vide, ouais. Parce que du coup j'avais plus de projet, quoi. Enfin, mon projet principal venait de partir, quoi.
Donc après t'en as chié.
J'en ai chié des ronds de chapeau parce que en fait j'étais pas du tout connectée à moi. J'ai un exemple concret pour aujourd'hui. Par exemple, c'était quelqu'un qui adorait partir dans des grandes capitales du monde. C'était quelqu'un qui aimait vivre, tu vois, New York par exemple, ça l'a fait kiffer. Moi maintenant que je me connais, je me rends compte que j'aime être au bord de la plage, enfin aller à la mer, je vis près de l'océan, que je suis plutôt une meuf qui aime marcher dans la forêt, faire une balade, être en jog et tout, que la vie urbaine ne me remplit pas de joie. Ouais. Donc déjà, je pouvais pas lui dire où j'aimais partir en vacances. J'étais pas capable de ça.
Ouais.
Donc si tu veux, c'est compliqué quand tu veux construire avec quelqu'un et qu'il y en a qu'un qui sait ce qu'il veut.
Donc au final, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que t'as apporté cette rupture?
Eh ben, ça m'a apporté d'être obligée de me dire, si tu veux continuer dans la vie là, il va falloir que tu te prennes par la main, il va falloir que tu fasses équipe avec toi, il va falloir que tu puisses créer ton mode d'emploi, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu dis, ah moi j'adore aller marcher en forêt. Par contre, les grandes villes un peu, mais pas trop. Tu préfères aller à New York ou à Biarritz? Bon, bah, je préfère aller à Biarritz. Tu préfères quel genre de musique? Moi, j'écoutais la musique de tous les mecs à qui j'étais.
Ouais.
J'ai écouté du métal, j'ai écouté...
En fait, t'as refait une mise à zéro de... Bon, Bérangère Krief, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle est quand elle n'est pas avec quelqu'un?
Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que profondément te nourrit dans ta vie? Il y a ton spectacle, tu fais tes trucs et tout, mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux voir? Ouais. Qu'est-ce qui te nourrit? Mais c'est des trucs très simples presque. Hein. C'est vraiment, par exemple, j'adore faire de la voiture toute seule. Tu vois? Alors qu'avant, moi j'aime bien que mon mec il conduise, nanana. Non, j'aime faire des trucs toute seule et je suis capable.
Oui,
et je me suis prouvé que j'étais capable de faire seule.
Ensuite, tu renchaînes, tu rencontres quelqu'un.
Ouais.
Spoiler, ça ne marche pas.
Spoiler alerte.
Non, ça qu'est-ce marche que pas. Tu retires de cette rupture?
Alors, quand, pour cette histoire-là, pour poser un peu le contexte, je me retrouve dans une histoire qui est beaucoup moins intense en termes de sentiments. Je m'accroche un peu quand même, sans trop savoir pourquoi. C'est très pragmatique en fait dans ma tête. Il y a des critères un peu nuls qui sont. Tu vois, genre, il a un
belle boulot. Qualité de cheveux déjà.
Il a une belle qualité de cheveux. Il a, je sais pas, son boulot, je trouve ça cool. En même temps, il comprend ce que je fais. Il est drôle. Enfin, des trucs un peu superficiels. Et en fait, c'est là que j'ai compris aussi après cette rupture-là un truc sur moi, c'est que je me retrouve dans un truc de comédie romantique encore une fois.
Ah, carrément.
Donc là
tu peux pas faire. Franchement, entre la rupture dont on vient de parler et celle-là, il y a un vrai truc de comédie romantique.
Donc je me retrouve, en fait, je vais la faire à l'envers. Je me retrouve à me faire larguer par SMS, enfin par mail.
J'étais encore là d'ailleurs.
j'étais là. À la réception du mail, Marine est avec moi. On est en train d'écrire Boobs and the Gang à la campagne. Et je reçois ce mail qui me dit, en gros, Mais qui est assez bien, le mail en soi, il était
oui,
bien.
Il est bien,
il est bien écrit. C'est
C'est pas, c'est, la personne a pris du temps, c'est pas genre, au fait.
Non, au fait, by the way. Non, c'était assez. J'ai trouvé ça ok, c'est une manière d'écrire et je suis pas vexée parce qu'il m'envoie un mail. Je suis vexée parce qu'après, je souhaite en parler avec lui et que le mec ne me répond pas de la nuit. Alors qu'on doit se voir et que le lendemain, il part pour 10 jours en Amérique du Sud. Donc, si tu veux, il y a un moment où moi, j'ai besoin de le voir, quoi. Et donc il coupe son portable et moi je me retrouve dans le même état que j'étais dans ma rupture d'avant, la rupture 6.
Je m'en rappelle, j'étais là, ouais.
Et je me dis putain mais c'est pas possible que ça soit la même sensace. Donc je reçois ce mail, mais sachant qu'un mois avant, on s'était remis ensemble parce qu'on s'était déjà séparés durant l'été. On s'était séparés un mois, elle était revenue me chercher sous une mise en scène quand même.
Incroyable.
Un remake. Le remake de Love Actually, pancarte, chanson sur le palier. Vraiment avec sa petite bose, des petits papiers imprimés.
Le soir de son anniversaire.
Le soir de son anniversaire. Et là, je tombe dans le panneau, quoi. Enfin, je me dis, ah, je me suis dit, oh, il a imprimé des papiers, ce qui est très nul, tu vois. C'est l'estime de soi. Tu te dis, putain, en fait, je vaux mieux qu'un paquet de A4, tu vois, imprimé. Donc, bref, j'ai une mise en scène Love Actually. Donc, j'ai un vrai.
Est-ce qu'on peut raconter le twist, quand même, de ce truc?
Avec. C'est quoi? La copine de...
ouais, ouais.
Ah oui. Alors, il faut savoir que ce garçon avait un meilleur ami qui, lui, était resté près d'une dizaine d'années avec une fille que j'avais rencontrée, avec qui on avait sympathisé un peu. On était deux couples qui se connaissaient. Eux se sont séparés peu de temps avant nous, un peu en même temps. Enfin, c'était assez bizarre. Et puis, j'ai jamais revu cette fille. Et peut-être 6 mois après cette rupture-là, je la croise dans la rue. Et on se dit, ah, salut, tu vas bien et tout. Elle s'est recasée, elle a refait sa vie et tout. Et moi, je suis un peu encore dans la loose. Et puis, on discute et elle me dit, bah alors je dis, bah tu sais, je dis, moi, il m'a fait Love Actually sur mon palier. Elle me dit, mais non, mais moi aussi, il m'a fait ça. Donc, elle, son ex à elle, lui avait fait la même. Les deux copains se sont dit, hey, vas-y, c'est quoi le meilleur film? Love Actually, on fait ça, d'accord? Allez, top, check. Et donc.
Elle, ça a marché ou pas?
Et elle me dit, ah mais moi il a ouvert, il a bougé deux papiers, j'ai dit arrête tout de suite, t'es ridicule. J'ai fait, bah moi j'ai ouvert la porte et puis on a couché ensemble. Je me sentais vraiment nulle. Je me suis dit putain, et ça m'a vraiment mis un truc de me dire, ah oh, putain, c'est naze.
Donc il y a cette rupture.
Et donc il y a cette rupture, et là je me dis, là je prends conscience de ma responsabilité dans le délire de comédie romantique. Parce que moi je me disais, mais je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé à personne. J'ai pas dit, excuse-moi, moi j'adore Love Actually. C'est pas mon film préféré. Je préfère The Holidays. Tu vois.
C'est vrai qu'il est bien The Holidays.
Bah oui. Donc, si tu veux, la demande en mariage, je n'ai jamais parlé de mariage. Je n'ai jamais dit que je voulais aller à New York, sachant que, pour la faire courte, le mec qui m'a emmené à New York n'est pas le premier à vouloir m'emmener. Il y en a eu deux autres avant qui m'ont proposé le voyage,
mais qui
ne m'ont pas emmené. Et je me disais, c'est quoi ce délire avec New York, qui est une ville sympa, mais que je n'affectionne pas de ouf, tu vois. Et c'était le délire comédie romantique, Carrie Bradshaw et tout, que j'ai. C'est vraiment une partie de moi. Donc j'ai pris conscience que si je raconte des histoires et que je m'en raconte à moi, l'autre, s'il est un peu empathique, il va se dire, attends, je vais la faire kiffer et je vais jouer le rôle du gars qu'elle voudrait. Donc c'est pour ça que j'ai dû complètement enlever cet archétype de comédie romantique.
Donc qu'est-ce que t'as fait ?
Eh ben je suis partie toute seule en Australie.
Super.
Voilà, là, face à face avec moi-même pendant un mois à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que je peux dire ? Bah, j'ai passé un mois toute seule, j'ai rencontré aucun amoureux, j'ai eu aucune histoire. Je me suis inventé aucune histoire, il s'est rien passé à ce niveau-là.
C'était toi avec toi, quoi.
Moi avec moi.
Toi avec toi.
Pas volontairement. J'ai pas cherché, mais ça s'est pas fait, quoi. Il y a pas eu de voilà. Mais après, c'était que marcher, me dire, oh j'aime bien ça. Oh, quand il y a la balade.
Ça fait peur de partir tout seul, quand même.
Ah bah oui.
Moi je l'ai fait aussi, c'est flippant.
Oui, c'est flippant. Ah, il y a un moment où tu dis, bon, j'ai envie de faire une balade. Aïe, donc je vais toute seule faire une balade. D'accord. Donc là, je marche toute seule. Si je me pète la cheville, je meurs et personne me retrouve. Ouais. D'accord, super, je suis à l'autre bout du monde, ma mère va crever, c'est sûr. Mais ouais, non, j'ai poussé mes propres limites. Après, ce que je dis toujours, c'est que ce voyage, c'est chacun sa jungle, en fait. Hein, c'est pas obligé d'aller en Australie, tu peux aller...
Moi, je suis allée à New York, justement.
Ouais.
Moi, je suis partie à San Francisco, New York, Montréal.
Ouais, t'as fait les trois.
Et toi, parle-nous
un peu de... Toi, t'es...
Attends, bah, terminons et si tu veux, on fera un autre coin duf à mon sujet.
D'accord.
Mais du coup... Ok, ça, tu pars en Australie, tu reviens, bam, tu retrouves quelqu'un. Rupture.
Non, je reste un an, j'ai une histoire, mais alors, j'ai eu quand même dans mon parcours, j'ai eu des histoires amoureuses, genre on est en couple, on est ensemble, tu vois, il y a un truc. Et puis, j'ai eu des histoires où j'étais tellement fracassée au niveau du cœur que j'avais des histoires et je disais, je ne m'engage pas, je ne suis pas engagée dans la relation. Elle était suivie, si tu veux, pendant des mois, mais je ne pouvais pas m'engager avec la personne.
Mais tu lui disais, on n'a pas de projet.
Je disais, on n'a pas de projet, ouais. J'ai dit, on n'a pas de projet, et puis en même temps, c'est souvenir de. J'ai eu quelques relations comme ça, et j'ai souvenir d'être super bien, d'être vraiment libre, tu vois. Et c'est pas à faire la déglingue, et je n'étais pas dans des partouzes non plus, tu vois. Mais j'étais libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, je me sentais plus powerful en fait. Je me sentais moins femme au foyer. Mais sans critiquer les femmes au foyer, mais. C'était moins épouse en fait. C'est même pas femme au foyer, c'est la bonne épouse. Voilà. Moi j'ai vraiment le syndrome de il faut être la bonne épouse.
Donc tu rencontres quelqu'un.
Ouais.
Rupture.
Et là, rupture.
C'est maintenant.
Bah oui.
Ah ouais, pardon.
Enfin, tu parles de. Ah oui. Bah là, il y a rupture. J'ai une histoire avant qui a duré peut-être 8-9 mois, mais où j'étais dans une liberté. Donc quand ça s'est terminé, si tu veux, j'ai. C'est pas que j'ai pas eu d'émotion, mais en fait, je ne m'étais pas fait de projection.
Ouais.
Et je crois que c'est aussi ça qui est très dur dans une rupture, c'est tout le poids de la projection. C'est-à-dire que c'est te dire, ce film n'aura pas lieu. Souvent, je sais pas, tu te dis comment elle sera la maison qu'on aura, ou comment s'appelleront nos enfants. Ah ouais, et un jour on fera ça, et en fait, tout ça ne va pas se faire. Et c'est super dur à accepter, en fait. Alors que quand t'as rien promis... Bon bah t'es pas déçu. Après je dis pas que c'est comme ça qu'il faut vivre, mais en tout cas je trouve que c'est. Donc j'ai une rupture, oui. Il y a une histoire qui s'est terminée, mais je l'ai moins mal vécue.
Mais qui était pas dans la douleur en fait.
Bah pas dans la douleur parce que j'avais été honnête, parce que je m'étais pas engagée, parce que voilà.
Et là maintenant on est à la 8e rupture.
Oui.
Ça fait pas longtemps.
Non, ça fait un mois.
Est-ce que déjà t'en tires quelque chose ?
Bah, je me retrouve encore dans cette. J'ai l'impression d'être dans un champ de mine, de devoir tout labourer, de devoir tout ratisser pour pouvoir reconstruire. Mais avec la certitude, c'est comme si cette expérience-là m'avait donné la certitude que si je m'oublie, ça ne marche pas. Si je ne suis pas qui je suis à 100%, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que je vais mettre de côté des parties de moi pour que l'histoire continue, parce que j'ai l'impression que ça dérange, ou que faut pas trop que je sois comme si... que voilà, j'essaye de simplifier les choses en m'oubliant, en mettant des couvercles sur des parties de moi. Mais au final, la finalité, c'est que ça se termine.
Tu m'as dit, ça faisait... Franchement, quand tu m'as dit, j'adore les ruptures, je t'ai dit, ok, faut qu'on en fasse un podcast. Ça faisait genre, peut-être une semaine que tu étais séparée. Au final, t'aimes les ruptures ?
C'est ce que tu... Tu sais, je t'écoutais parler, je me dis, j'ai vraiment dit ça ? Non, parce que au tout début, comme ça faisait quelques temps que ça n'allait pas et que ça a été dur de prendre cette décision, quand je t'ai dit ça, j'avais un sentiment de soulagement puisque j'avais dit ma vérité. J'ai dit, cette relation ne me convient pas. Et c'est acté, en fait. Donc, quelque part, ça m'enlève un poids. Ça m'enlève un poids, non pas de me dire, ah, c'est bon, je ne vais plus le voir, mais en tout cas, je suis dans ma vérité. Et d'un coup, il y a deux personnes qui se réunissent en une, et c'est moi qui dis, ça ne me convient pas. Après ça... Si j'ai eu envie qu'on fasse ce podcast, c'est que je trouve que on peut rester trop longtemps en colère contre quelqu'un on peut rester dans des états négatifs, de tristesse, parce que l'état émotionnel est hyper intense. Et j'ai eu envie de dire, il se passe des choses après la rupture parce que tu te retrouves toi. Et même si c'est difficile, hein, je veux pas dire que c'est super. D'un coup, paf, je me suis retrouvée. Non, je vois à quel point. Tu vis à deux, t'es toute seule, c'est dur, c'est pas facile quoi, c'est vraiment pas facile. Par contre, il y a des petits moments de victoire personnelle et des petits moments de joie qui sont tellement forts et qui te renforcent. Et ouais, et j'ai, en fait, ça met en lumière mon indépendance, que je peux pas être dans une relation fusionnelle, que c'est pas possible que je sois le tout de quelqu'un. Alors que franchement, j'ai écouté toutes les chansons de Francis Cabrel, toutes les chansons de Patrick Bruel et tous ces trucs romantiques, Johnny Hallyday, machin.
De tous ces mecs divorcés finalement.
De tous ces mecs qui se séparent toutes les 3 minutes. Ben en fait, je ne veux pas être enfin, une partie de mon ego voudrait. Faire être la muse de quelqu'un et que sans moi l'air soit irrespirable, mais en fait au fond c'est trop étouffant quoi, c'est pas bon quoi. Donc non, pour répondre à ta question, je vais pas dire que j'aime les ruptures parce qu'en ce moment c'est pas facile, je sens que je traverse un truc. Par contre, je pense que on est là pour vivre des expériences, que ce ne sont que des expériences, que l'autre te permet aussi, parce qu'il faut remercier la personne que tu as choisie. Moi, je remercie parce que cette expérience-là avec ce garçon, elle m'a permis d'affirmer des trucs, mais fort. Tu vois, j'avais une espèce de peur. En couple, j'étais toujours... tu vois, je m'énervais jamais, je suis toujours un peu... Non, mais ça me dérange pas. Alors qu'en fait, t'as envie de dire, mais écoute, va te faire cuire le cul, c'est pas grave. Mais ça, j'étais incapable de le faire. Donc, de dire des choses un peu dures, tu vois, de dire quand ça te fait chier, quand... Donc j'ai appris plein de choses. Cette expérience, elle m'a nourrie sur plein d'endroits. Elle m'a guérie aussi de trucs parce que c'était quelqu'un qui m'a énormément aimée et beaucoup dit de mots qui m'ont fait du bien, qui m'ont rassurée, qui m'ont. Donc je peux pas, je crache pas du tout. Faut jamais regretter en fait ce qu'on a vécu en se disant oh, putain j'ai perdu du temps machin etc. On doit vivre ce qu'on a à vivre. On va au bout de cette histoire et puis après c'est le après moi qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce que tu fais du après? Est-ce que tu pleures dans ton champ de mine en disant que t'as plus de bras, plus de jambes? Ou est-ce que tu te dis, ok, j'ai compris ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que ça me donne comme opportunité, etc.
Ben voilà.
Donc je prends des vous pouvez prendre rendez-vous par mail sur Doctolib.
Et ok, dernière question et après je pense qu'on va clôturer ce sujet. Parce qu'il n'y a plus de... Il y a plus de feu, tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce que tu espères de cette rupture?
Je pensais tout à l'heure que la rupture numéro 6, qui a été la plus grosse, la plus douloureuse, j'ai traversé la phase de pardon. Vis-à-vis de mon ex qui m'avait trompée, donc il y avait de l'infidélité, il y avait du mensonge, il y avait de l'abandon, il y avait de la trahison parce qu'on s'était pas mariés, machin, etc. Et j'ai réussi avec le temps, avec beaucoup, beaucoup de temps, à faire la paix et à pardonner, à me pardonner et à lui pardonner. Et aujourd'hui, on est très amis.
Et c'était fou d'ailleurs parce qu'on s'est, la semaine dernière, on a dîné
chez lui, ouais.
Chez lui et c'était incroyable. Enfin, pour moi, de voir ça,
oui,
parce que je savais que vous étiez amis.
Il était quand même mon connard pour toi, enfin pour beaucoup de mes amis.
En fait, je t'ai jamais dit que c'était un connard.
Non, c'est vrai.
Parce que
y a des gens qui l'ont dit.
Oui. Et on a une liste qui est
longue comme le bras.
Non, mais moi, je t'ai jamais dit que c'est un connard, parce que je pense qu'en fait, je pense pas qu'on est. Je pense pas qu'on soit des connards dans l'absolu. Je pense que
non, bah, moi non plus. Maintenant, je pense
qu'on a des situations de connards, tu vois, mais c'est pas. Bref. En tout cas, c'était très émouvant pour moi de voir ça, de voir à quel point... et ce qui est drôle, c'est que tu lui en mets plein la gueule.
Mais avec humour.
Avec... Ouais, c'est ça, vous verrez.
Mais en fait, tu sais, on a tellement... Enfin, c'est une rupture, on a tellement pas parlé, on a tellement pas dit les choses, etc. Ce sera peut-être l'objet d'un autre coin d'œuf, mais on avait tellement pas parlé à ce moment-là, il a tellement pas réussi à me dire sa vérité. Et on arrive tellement à parler aujourd'hui, mais alors je c'est quand même 5-6 ans après. Hein. On n'est pas, on est sur un truc qui a pris vraiment du temps. Il y a eu un moment où je pouvais pas, je changeais de trottoir quand je le croisais dans la rue, donc il y a du temps. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, bah j'espère que j'arriverai à garder ce lien, à être. Parce que quand on a aimé quelqu'un, le lien il reste toujours. On peut pas aimer quelqu'un puis d'un coup on l'aime plus. C'est la relation qui ne nous convient plus, mais le fait d'avoir rencontré cette personne, elle nous a apporté quelque chose. Et j'espère que qu'on arrivera à être amis, à garder contact parce qu'on s'est apporté beaucoup et que ce qu'on imaginait n'a pas eu lieu et parce que c'est pas nous qui écrivons le scénario de la vie. Belle phrase, Francis Cabrel. Mais voilà, je...
Mais ça, c'est ce que t'espères pour vous.
Ah oui, pour moi.
Qu'est-ce que t'espères pour toi? Qu'est-ce que t'espères pour toi, cette rupture-là? Avec toute ton expérience de rupture.
Bah, j'espère vraiment que je vais pouvoir me reconnecter à moi, profondément. Avoir la vie de... Bah, c'est un peu être dans ma puissance, en fait, de femme. Et sans que j'ai l'impression que ça dérange l'autre. Tu vois, de pas... je sais pas comment exprimer ça. J'ai l'impression qu'il y a deux facettes de moi, c'est-à-dire que quand je suis seule, et ben, hop, je prends ma place, je crée, je brille, je prends de la place. Et puis quand je suis avec l'autre, bon, bah, c'est un peu. Bon, alors après, c'est un autre sujet. Est-ce que les hommes sont prêts à avoir des femmes puissantes avec eux ou pas, hein. Enfin, c'est pas forcément des hommes, mais en tout cas,
oui.
c'est le côté je suis avec quelqu'un qui brille, comment je me positionne, le sentiment que
ça peut créer. Dans le cadre de ton métier, tu veux dire, qui brille
Ouais, dans le cadre
du métier. Vraiment littéralement mis en lumière, quoi.
Bah, ou mis en lumière, ou qui a un métier qui lui prend du temps, qui est reconnu pour son métier, je sais pas, en fait, plein de choses. Ou il y a des personnalités, hein, des fois. Des gens qui parlent très fort, qui vont raconter des. Oui. Et moi, je m'amenuise toujours un peu comme. Comme la bonne épouse des années 50, tu vois. Donc, il y a moi, ce que j'appelle ma Corinne qui prend beaucoup de place. Donc, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir dire non, ce soir, je préfère être toute seule. J'ai décidé de partir 2 mois en Mongolie avec une copine ou avec moi. Et que ça ne remette pas en cause la relation, en fait. Que ce soit que je suis comme ça, en fait. Et que j'ai besoin, de créer, de recevoir du monde chez moi, d'être entourée. Je ne suis pas. J'ai l'impression d'avoir un cœur immense, d'avoir énormément d'amour à donner sous plein de formes et que je ne peux pas le donner qu'à une personne. Voilà, c'est ça que je me souhaite, c'est de pouvoir.
Le polyamour, en fait, finalement.
Non, non, pas forcément. Hein.
Non, mais c'était juste une vanne, mais oui.
Oui, mais c'est. Bah, après, si c'est ça, j'en sais rien, mais.
Oui.
Mais en tout cas, à mes amis, tu vois, de dire que moi, il y a plein de gens dans mon cœur, j'ai énormément de gens. Et c'est ma nièce qui me dit souvent ça. Il y a beaucoup de gens dans mon cœur, elle me dit. Et je me dis, t'as un très grand cœur et tu peux mettre tout le monde, en fait. Donc voilà ce que je me souhaite. Et puis, après, j'ai envie de construire aussi une vie de famille. Donc, là, tu me demandes ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où je suis en plein doute de ça, où je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Parce que
tu vas y arriver, il n'y a pas de raison.
Ouais, mais aujourd'hui, j'ai un peu douté, je te le cache pas.
Ouais, je comprends.
Je me suis dit, putain.
Tu veux dire, quand on était tout à l'heure en train de faire les courses à Intermarché, tu doutais?
Non, juste après. À la caisse.
À la caisse.
Ouais, j'ai fait mon code, j'ai dit, oula, attends. Est-ce que je suis pas en train de douter? C'est sa meuf qui a payé.
C'est ma meuf qui a payé. 130 euros.
Je te ferai un Lydia.
Après, bon, je te cache pas qu'on a pris un peu des produits d'entretien. Je crois qu'on va clôturer ce coin d'œuf là-dessus.
C'était quoi le thème, en fait, global? Qu'est-ce que tu tires de ta rupture?
Non, tu adores les ruptures. Je voulais que tu nous parles de pourquoi tu adorais les ruptures et d'accord. Voilà où ça nous a amené.
Ok.
Maintenant.
Ouais, j'adore.
Il y a plein de gens dans mon cœur.
Ouais, je voudrais juste faire un bémol qu'il y a un moment, une semaine après, il y a un soulagement. Un mois après, je peux pas. Là, quand tu dis j'adore les ruptures, ça me fait genre.
Non, mais tu m'as dit. Exactement, tu m'as pas dit que j'adore les ruptures, tu m'as dit j'adore les ruptures. Enfin, j'ai réalisé que j'adorais les ruptures parce que je l'ai déjà vécu, je connais le chemin. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit j'ai hâte de danser en culotte avec mes copines et de fumer des clopes en chantant très fort. C'est ce que tu m'as dit. Et regarde, c'est absolument ce qu'on fait.
Mais je voudrais que tu remettes ton jogging, s'il te plaît. Et qu'on arrête ce playback de la Rousseau.
Exactement.
Merci Bérangère.
Merci Marine.
Et ben, on se retrouve à demain pour ce nouveau coin d'UF.
Ouais.
Voilà, c'est tout, je crois.
Ouais.
Bah, bisous.
Bisous, bisous.
Et puis, ah oui, et puis pour s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont actuellement en pleine rupture.
Oui. Ça va aller de ouf.
De ouf.
Mais c'est juste trouver vraiment la clé de votre propre.
Kiffance
personnelle.
Exactement. Bah, écoutez, il y a plein d'autres épisodes. Nous, on en a écrit pour l'instant 3, mais.
Ça va.
Mais vous, vous en avez plein à dispo. N'hésitez pas à les écouter parce que peut-être qu'il y aura quelque chose là-dedans qui va vous aider. Parce que, voilà.
On espère de tout cœur, en tout cas.
En tout cas, on veut que vous aider et on vous embrasse parce que vous êtes des belles personnes et il y a de la place dans le cœur de Bérangère pour vous.
Moi,
vous
franchement, dans...
bof, mais Bérangère,
moi vous y êtes.
Ouf, la place.
Je suis de tout cœur avec vous.
Gros bisous.
Gros bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.